Lettre aux Romains, chapitre 6, les versets 1 à 14. Page 1272. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quels ont été les jours les plus importants de votre vie ? Si vous deviez en mettre à part 3, 4 qui sortent vraiment du lot. On pourrait chacun avoir notre petite liste. Pour ma part, je pense que je mettrais certainement mon baptême, peut-être mon bac, je ne sais pas, le baptême c'est sûr, mon mariage, la naissance de chacune de mes deux filles. Voilà, nous avons tous comme ça ces jours qui sortent du lot. Parfois, ce n'est pas forcément des jours joyeux, ça peut aussi être des jours difficiles, mais qui ont marqué notre vie. Le texte que nous venons de lire nous amène à dire, je crois, pour nous qui sommes chrétiens, que les deux jours les plus importants de notre vie sont ce vendredi, il y a presque 2000 ans, quand Jésus est mort sur la croix, et le surlendemain, le dimanche, premier dimanche de Pâques, lorsqu'il est sorti du tombeau. Les deux jours les plus importants de ma vie, de notre vie, pour nous qui sommes chrétiens. Alors vous me direz que je joue sur les mots. Pas si sûr. Parce que précisément, l'idée clé de cette première partie du chapitre 6 de la lettre aux Romains, c'est que si nous avons reconnu en Jésus notre Sauveur et Seigneur, notre vie est liée à la sienne. Nous avons lié par la foi notre vie à la sienne. Son histoire devient la nôtre. Et dans un sens, il a fait de notre histoire la sienne. Alors, on va essayer de tirer cela au clair ce soir. J'aime bien comment Cécile le disait, que ça soit un petit peu plus clair. C'est mon espoir, effectivement. Je ne veux pas mettre la barre trop haut. Mais d'abord, un mot du contexte. L'apôtre Paul a passé les premiers chapitres de cette lettre, et on l'a vu avant l'été, à montrer combien la venue de Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection sont une bonne nouvelle pour des hommes et des femmes pécheurs, et des enfants pécheurs, égarés loin de Dieu, qui ont désespérément besoin de retrouver Dieu. Voilà la bonne nouvelle, l'évangile qui est au cœur de la Bible. Et à la fin du chapitre 5, qu'on a vu la semaine dernière, il affirme que là où la faute des hommes abonde, là où la faute est nombreuse, la grâce de Dieu, sa faveur imméritée, surabonde. La bonté et le pardon de Dieu, accomplis par le sacrifice de Jésus, effacent notre culpabilité, mais vont même au-delà. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui non seulement pardonnés, mais aussi parfaitement comblés par Dieu. Alors ce sont des paroles puissantes. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit au tout début de sa lettre. Il dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des paroles puissantes, mais en même temps controversées. Et Paul sait que ce message, qui n'est pas du tout un message entre guillemets religieux typique, ce message de la grâce de Dieu, il peut être caricaturé. Il peut être détourné. Et certains pourraient aller jusqu'à dire que, eh bien, puisque Dieu a décidé de pardonner, bah autant se lâcher. Dieu, de toute façon, il va pardonner. Et à la limite, plus on désobéit à Dieu, plus on fera ressortir combien son pardon et sa grâce sont magnifiques. Et c'est exactement l'objection que Paul va énoncer au verset 1, à laquelle il va répondre. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? En quelque sorte, est-ce que l'évangile, finalement, c'est un message trop facile ? Eh bien, la réponse que Paul apporte à cette problématique, elle est résumée dans cette petite phrase au verset 11. « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Alors, je ne me suis pas foulé pour les deux parties, ça sera les deux points. Mort pour le péché, vivant pour Dieu. D'abord, donc, mort pour le péché. Première idée forte qu'on retrouve dans ce texte. On a déjà vu cette question que l'apôtre Paul soulève au verset 1. Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Alors, est-ce que des gens avaient émis cette critique à Paul ? C'est probable, parce que c'est simplement hypothétique. En tout cas, on sait que dans l'histoire de l'Église, il y a des personnes qui ont tenu ce genre de propos. Soit parce qu'effectivement, ils voulaient profiter de la grâce de Dieu pour faire n'importe quoi, soit pour critiquer le message de la grâce en disant « Regardez, c'est beaucoup trop facile ». Allons-nous persister donc dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Paul ne nous laisse pas dans le suspense longtemps, il répond tout de suite à sa propre question au verset 2, « Certainement pas ». Traduction un petit peu douce de l'expression qu'il utilise dans le texte original, qui serait plutôt « hors de question, jamais de la vie ». Donc Paul affiche clairement la couleur dès le départ. Si on pense que la grâce de Dieu est une excuse pour vivre comme bon nous semble, on n'a rien compris de la bonne nouvelle, on n'a rien compris de l'évangile. Et c'est pour ça qu'il explique dès le verset 2, il explique pourquoi. « Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Et là, on a l'argument clé de Paul. Comment voulez-vous qu'on vive dans le péché si on est mort pour le péché ? Alors, en surface, on comprend la logique. Si on est mort, on ne peut pas vivre. Si vous allez voir un monument aux morts dans une ville française, dans un village, comme il y a presque toujours, monument aux morts de la guerre de 14-18, 39-45, et vous avez mort pour la patrie, vous ne vous dites pas, tiens, ça c'est des bons gars, il faudrait qu'on les recrute pour le service de la patrie aujourd'hui. Ce n'est pas possible, ils sont morts pour la patrie, ils ne peuvent pas aujourd'hui vivre pour la patrie. Alors là, cet exemple-là, on le comprend, mort pour la patrie, on voit ce que ça veut dire. Maintenant, mort pour le péché, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, Paul va passer un peu le reste du texte à expliquer ce qu'il entend par là, et ensuite, vivant pour Dieu. Alors c'est un texte, il faut le reconnaître, n'est pas très facile à première lecture, comme pas mal de textes dans la lettre aux Romains. Mais derrière l'argumentation dense de l'apôtre Paul, il y a une vérité puissante et précieuse. Et j'espère que nous pourrons bien la saisir ce soir. Paul vient de dire donc que nous sommes morts pour le péché. Et il commence à expliquer à partir du verset 3 ce qu'il veut dire par là. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Et je m'arrête là pour l'instant. Que nous dit Paul ici ? Alors d'abord, on voit qu'il s'adresse à des personnes qui ont été baptisées, qui ont publiquement rendu témoignage de leur foi au nom de Jésus-Christ et qui sont passées par le baptême, comme Jésus lui-même l'a ordonné. Et il s'adresse donc à ces chrétiens qui se sont engagés publiquement et il veut leur faire comprendre ce que leur baptême a voulu dire, au cas où ils l'avaient perdu de vue. Il peut arriver que des chrétiens baptisés perdent de vue ce qu'ils ont déclaré le jour de leur baptême. C'est même assez fréquent. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et il développe au verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alors là, à première vue, on peut dire, qu'est-ce qu'il raconte ? Notre vieil homme a été crucifié. Qu'est-ce que Paul veut dire ici ? Se faire baptiser, c'est reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a pris mes péchés sur lui à ma place et il en a payé le prix. Et par conséquent, nous dit Paul, c'est comme si le vieil homme, c'est-à-dire l'ancienne personne que j'étais, avant de donner ma vie à Jésus, avait été crucifié avec Jésus. L'ancien Matthieu, pour ce qui me concerne, a été crucifié avec lui. C'est moi qui aurais dû aller à la croix. C'est moi qui aurais dû subir le jugement de Dieu à cause de ma rébellion contre lui, le Dieu de la vie. Mais Jésus y est allé pour moi en assumant ma situation d'homme pécheur. Et c'est pour ça que Paul peut dire, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, verset 3. Paul montre ici l'importance de la symbolique du baptême, verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Et on voit au passage que pour Paul, que Paul associe clairement le baptême à l'immersion. Lorsque le baptisé est plongé dans l'eau, il est comme enseveli, il a suivi symboliquement Jésus-Christ dans sa mort. Lorsqu'il sort de l'eau, il est comme ressuscité. Il suit Jésus-Christ dans sa résurrection pour une vie nouvelle. Alors j'ouvre juste une petite parenthèse ici. Certains pourraient se demander pourquoi Paul insiste autant sur le baptême. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur l'acte du baptême? Et est-ce qu'il sous-entend ici que c'est au moment précis du baptême que Dieu nous pardonne et qu'il nous donne une vie nouvelle? Il se passe un truc quand on passe dans l'eau, paf, Dieu nous pardonne. Clairement non, parce que Paul vient de passer 5 chapitres à affirmer que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on reçoit le salut de Dieu. Donc il ne va pas se contredire dès le début du 6e chapitre en disant « Ah non, finalement c'est par le baptême ». Mais Paul semble fusionner en quelque sorte la conversion et le baptême ici. Pourquoi ? Parce que pour lui, il va de soi que lorsqu'on devient chrétien, on se fait baptiser. Il ne se pose même pas la question. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le reste du Nouveau Testament. Vous savez, lors d'un mariage civil, le couple commence par se dire oui, échange les consentements, et ensuite les deux conjoints signent le registre de mariage qui officialise l'acte. Eh bien, pour l'apôtre Paul, devenir chrétien sans se faire baptiser, c'est un petit peu comme si on s'est dit oui, on a échangé les promesses devant le maire, si j'ose dire, mais ensuite on sort de la salle sans avoir signé, en quelque sorte. Dans tout le Nouveau Testament, en réalité, il y a une association tellement étroite entre la conversion du cœur et le baptême qu'on n'imagine pas les séparer. Et ça doit peut-être nous faire réfléchir si certains parmi nous sont chrétiens de longue date, mais hésitent encore à se faire baptiser. Alors, je suis heureux en disant ça parce que je sais qu'il y a au moins 3 voire 4 personnes dans la salle ce soir qui ont un projet de baptême à court terme, et donc ça me réjouit beaucoup. Mais le baptême n'est pas une étape de la vie chrétienne. On peut le croire parfois à tort. Le baptême n'est pas une étape de la vie chrétienne, c'est le point de départ. C'est symboliquement le point de départ. Alors, si ce point de départ, si le baptême a été retardé, il n'est pas trop tard. Merci Seigneur, il n'est pas trop tard pour répondre à cet appel. Et n'hésitez pas à venir m'en parler. Je serais heureux de rajouter des noms à la liste. Mais donc je ferme cette parenthèse sur le baptême. Et je reviens à la question clé posée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour le péché? Il y a une interprétation assez courante de ces versets qui dit ceci, en gros. De même qu'un mort, quelqu'un qui est mort, ne peut plus rien ressentir, eh bien le chrétien qui est mort pour le péché, il est en quelque sorte devenu insensible au péché. Il s'est passé quelque chose spirituellement qui fait que face au péché, il est comme mort. Il est devenu inatteignable par le péché. Et à première vue, le verset 14 semblerait aller dans ce sens. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Mais cette interprétation courante pose beaucoup de problèmes. D'abord, il faut bien constater qu'elle est en porte-à-faux avec notre expérience. Quel chrétien pourrait dire qu'il est insensible aux tentations et au péché? Et si c'est le cas, si c'était le cas que nous l'étions, insensibles, pourquoi est-ce que Paul prend la peine d'écrire ce texte en exhortant les chrétiens à se détourner du péché, comme il le fait à partir du verset 12 notamment? Il perdrait son temps. Si de toute façon les chrétiens sont insensibles au péché, c'est même pas la peine d'en parler. Mais surtout, et comme l'ont bien montré certains spécialistes, ça ne correspond pas à la logique du texte. Et là, les versets clés sont les versets 10 et 11. Christ est mort, écrit Paul, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché. On voit ici que cette expression, mort pour le péché, Paul l'utilise à propos de Jésus. Or, que veut dire Paul quand il dit que Jésus est mort pour le péché ? Il ne dit pas que Jésus est devenu comme un mort face au péché, que Jésus serait devenu insensible au péché, comme si avant, Jésus était vivant pour le péché. Pas du tout. Non, Paul redit ici ce qu'il a déjà dit à bien des reprises dans la lettre. Jésus est mort pour payer le prix du péché, pour en subir la peine. Dès le chapitre 3 de la Genèse, tout au début de la Bible, on apprend que la conséquence du péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, la rupture de notre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est précisément ce que va rappeler Paul à la fin du chapitre, ça correspond au texte qu'on verra la semaine prochaine, mais le salaire du péché, c'est la mort, verset 23. Alors que nous dit Paul ici? Il nous dit que nous sommes morts pour le péché au sens où nous sommes associés à la mort de Jésus pour le péché. Sur la croix, le jugement de Dieu contre moi, homme pécheur, est tombé. Mais il est tombé sur Jésus, à ma place. Jésus m'a représenté devant la justice de Dieu. Et par conséquent, je suis mort pour le péché, parce que ma peine est purgée. Et voilà pourquoi, verset 14, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pas parce que nous y serions devenus insensibles, mais parce que le péché ne pourra plus jamais nous condamner aux yeux de Dieu. Si quelqu'un paye une dette à votre place, même si le paiement n'est pas venu de vous, la dette est payée. Vous n'êtes plus endetté. On ne vous réclamera plus cette dette. C'est la même logique ici. Jésus-Christ est mort pour le péché. Il a subi la conséquence du péché, le jugement du péché à notre place. Et donc c'est en lui, comme le dit Paul à plusieurs reprises dans le texte, que nous sommes morts pour le péché. L'homme que j'étais auparavant, l'ancien Matthieu, celui qui était coupable aux yeux de Dieu, pécheur et condamné, est mort avec Jésus sur la croix. La sentence est passée. Dieu ne me regardera plus jamais comme un coupable qui mérite son jugement. J'espère qu'on saisit bien à quel point c'est fort ce qu'écrit l'apôtre Paul là. Alors si l'ancien moi est mort sur la croix avec Jésus, façon de parler, mais le résultat est là, c'est comme si j'étais mort sur la croix. Qu'en est-il de celui que je suis aujourd'hui? Et bien c'est là que Paul va continuer dans la logique de l'image du baptême et affirmer que de même que Jésus est mort pour nous, et bien il est aussi ressuscité pour nous. Et donc nous pouvons vivre une vie nouvelle avec lui. C'est le deuxième point, vivant pour Dieu. On a tous vu ces films ou séries dans lesquels un témoin clé lors d'un procès est protégé par le gouvernement. Alors ça se passe outre-Atlantique en général. Et le gouvernement donc donne au témoin protégé un nouveau nom, un nouveau passeport et le place dans une nouvelle région avec une nouvelle profession, etc. L'ancienne identité est détruite, complètement détruite, comme si la personne était morte. Et la personne reçoit donc une nouvelle identité. Alors c'est un procédé qui existe dans plusieurs pays, pas encore en France, même si apparemment c'est en discussion depuis les attentats du 13 novembre. Un procédé drastique, parce que ça oblige la personne à couper les ponts entièrement avec son passé, mais en même temps ça lui permet un nouveau départ, une nouvelle vie. C'est un peu, dans un sens, ce que nous dit l'apôtre Paul dans ce texte. Nous sommes passés par une mort, et nous sommes donc maintenant invités à vivre une vie nouvelle. Verset 4, une vie nouvelle. Et pour en parler, eh bien Paul nous ramène à l'image du baptême. De même que le baptême renvoie à la mort de Jésus, à notre mort avec lui, le baptême en même temps, avec la sortie de l'eau symboliquement, rappelle que Jésus n'est pas resté mort. Il est sorti du tombeau au troisième jour. Alors ce soir, on ne pourra pas parler longuement de la résurrection de Jésus. On a d'autres occasions pour le faire. Mais ce texte, parmi d'autres, nous montre qu'on ne peut pas séparer la croix et la résurrection. Ça va toujours ensemble dans la Bible et dans le plan de Dieu. Si Jésus était resté mort, en fait, c'est le péché et la mort qui auraient eu le dernier mot. Quelle espérance est-ce que nous pourrions avoir? Si je déclare que j'ai confié ma vie à Jésus, qu'il est mon sauveur et Seigneur, mais qu'en fait, il est mort depuis 2000 ans, j'ai aucune autre perspective que la mort. Jésus devient juste alors un illustre personnage historique, quelqu'un qui m'inspire, mais c'est tout. Mais Paul rappelle que la mort n'est pas la fin de l'histoire, ni pour Jésus, ni pour nous. Verset 4-5. Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Alors, c'est un petit peu débattu, mais quand Paul parle d'une résurrection semblable à celle de Jésus ici, dans le contexte immédiat, je pense qu'il ne parle pas de notre résurrection corporelle, dont la Bible parle par ailleurs, et qui viendra à la fin des temps. Paul lui-même en parlera dans trois chapitres, au chapitre 8, dans deux chapitres. Mais ici, quand Paul parle d'une résurrection semblable à celle de Jésus, il me semble qu'il veut dire que de même que spirituellement parlant, nous sommes comme morts avec Jésus sur la croix, eh bien nous sommes comme ressuscités avec lui. Il y a désormais un nouveau moi dont la vie est associée à Jésus-Christ ressuscité. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Paul nous dit tout ça ici? Je vous ai prévenu que le texte n'est pas simple. J'espère qu'on suit à peu près. Mais c'est là qu'il faut revenir à la question du début du texte. Pour essayer de nouer la gerbe et de voir pourquoi Paul parle de tout ça. Quelle était la question qu'il a posée au début? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Jamais de la vie. Pourquoi est-ce que pour Paul, c'est impensable de continuer à pécher avec insouciance? Ou de prendre à la légère la grâce de Dieu en disant « bah ça va, Dieu de toute façon il me pardonnera ». Parce que, nous dit Paul, cette vie-là, elle est terminée. Nous ne sommes plus cette personne qui tolère le péché, qui vit dans le péché. Le péché est hors sujet. Il est totalement incohérent pour celui qui a été déclaré juste par Dieu grâce à la mort de Jésus et qui vit aujourd'hui une vie nouvelle par la foi en Jésus et grâce au Saint-Esprit. Dans un film assez ancien, Les Évadés, l'un des deux héros est enfin libéré après des décennies d'incarcération. Et il y a un programme de réinsertion, et donc on l'aide à trouver un job dans un supermarché, il a un petit logement, etc. Et au début, en fait, c'est très difficile pour lui de vivre cette nouvelle réalité, de s'adapter à cette nouvelle liberté. Il vit dans son petit appartement un peu comme s'il était encore dans sa cellule. Il y a une scène amusante où son nouveau patron au supermarché lui dit que ce n'est pas la peine de venir lui demander la permission d'aller aux toilettes à chaque fois. Il est libre d'y aller quand il a besoin. En fait, l'homme était libre dans les faits, mais il continuait à vivre comme s'il était en prison. Pour l'apôtre Paul, continuer à vivre dans le péché alors que l'ancien moi est mort avec Jésus sur la croix, c'est incompréhensible, c'est incohérent. Alors Paul sait bien que dans les faits, le péché est encore très souvent là, et c'est bien pour ça qu'il écrit ce texte. Il le dit juste après, que le péché ne règne que le... de la même manière, considérez-vous comme mort pour le péché. Verset 12, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Donc Paul sait bien qu'il y a besoin d'un effort, que ce n'est pas facile. Mais en même temps, il insiste sur le fait que c'est incohérent de vivre dans le péché. Et c'est se priver de la liberté magnifique que Dieu nous offre, une vie dans laquelle nous sommes invités à nous détourner du mal pour grandir dans la connaissance et l'amour de notre Créateur. Alors comment réagir à ce texte et à ces mots de l'apôtre Paul? D'abord, si nous avons reconnu en Jésus notre Sauveur et Seigneur, et si nous sommes passés par l'eau du baptême, peut-être ici même pour certains, ça doit nous faire sérieusement réfléchir. Est-ce que nous prenons bien conscience de ce que notre baptême a voulu dire? Ou est-ce que nous sommes venus ou revenus à tolérer le péché comme une réalité acceptable de notre vie, en se disant « mais de toute façon Dieu il est gentil, il pardonnera ». Rappelons ici que vivre dans le péché, c'est pas seulement vivre dans la débauche, passer son temps à faire du mal aux gens, ça peut être ça, mais aussi le simple fait de ne pas reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie, de s'éloigner de ce qu'enseigne la parole, de vouloir être soi-même juge de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le cœur même du péché. Alors, si nous nous sommes laissés aller à cela, à prendre le péché à la légère, si nous sommes simplement tentés de continuer à gérer nos vies sans Dieu, eh bien Dieu nous invite à une prise de conscience. Cette vie-là, elle est terminée. Si nous avons confié notre vie à Jésus, si nous sommes passés par les eaux du baptême, cette vie-là, elle est derrière nous. Considérez-vous, voyez un appel à l'effort en quelque sorte, considérez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Dieu. Verset 11. Donc dans ce texte, il y a à la fois une magnifique bonne nouvelle. Paul insiste sur le fait que si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, nous ne serons plus jamais condamnés. Nous sommes morts pour le péché. Le châtiment du péché, la mort, il est déjà passé et il est passé sur Jésus. Et ce qu'il en reste, ce qui reste de notre condition pécheresse, la mort physique, est devenu, au lieu d'être un passage vers la mort spirituelle éternelle, est devenu à la place un passage vers la plénitude de la présence de Dieu. Dieu a retourné toute chose pour notre bien. Nous ne serons plus jamais condamnés. Mais en même temps, dans ce texte, il y a un défi très fort qui nous est lancé et que nous aurions tort d'ignorer. Si nous avons placé notre foi en Jésus, si nous l'avons déclaré publiquement par le baptême, il est impensable que nous continuions à tolérer le péché. Il y a cet équilibre qu'on retrouve souvent dans les textes de la Bible. Oui, le péché, il est là, et ce serait une folie de le nier. Ceux qui viennent le jeudi soir, on l'a vu très clairement dans le dernier texte sur la première lettre de Jean. Le péché, il est là, ça serait une folie de le nier. Et en même temps, on ne peut pas l'accepter comme juste quelque chose de normal, qui fait partie de la vie. Non, ça ne fait plus partie de la vie, c'est l'ancienne vie. Et ce soir, Dieu nous donne l'occasion de lui confesser nos péchés, lui redire notre détermination à être qui nous sommes, comme on dit parfois, être dans les faits ce que nous sommes aux yeux de Dieu déjà, vivre en cohérence avec notre nouvelle identité. Pour ceux qui n'ont pas encore confié leur vie à Jésus, et je n'ai aucun doute qu'il y en a parmi nous ce soir, et j'en suis heureux, ce texte montre que le christianisme n'est pas un ensemble de valeurs, de dogmes. Il y a des valeurs, il y a de la doctrine, mais ce n'est pas fondamentalement cela. C'est un changement radical de la vie par lequel nous accueillons ce que Dieu a fait pour nous. Nous l'accueillons par la foi et nous nous laissons transformer pour toujours. Jésus vous invite, si vous ne l'avez pas encore rencontré, ce soir même, il vous invite à vivre une histoire entièrement nouvelle avec lui. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez des questions à ce sujet. Je vous invite à prier. Nous voulons te remercier, notre Père, parce que tu nous as envoyé Jésus pour payer la dette que nous avions envers toi. Une dette que nous avons du mal à accepter souvent, en ayant cette présomption que nous serions par nous-mêmes assez justes pour mériter ton amour, ta grâce. Mais précisément, nous ne le sommes pas. Et de mille et une façons très diverses, nous t'avons offensé, nous sommes révoltés contre toi. Mais tu nous donnes, Seigneur, tu nous offres une vie nouvelle, un pardon définitif. Tu nous déclares juste à tes yeux par Jésus-Christ. Et puisque nous sommes en lui morts pour le péché, tu nous invites maintenant à vivre pleinement cette vie nouvelle que tu as déjà inaugurée pour nous. Et nous te remercions parce que Jésus-Christ n'est pas seulement symboliquement sorti du tombeau, il est réellement sorti du tombeau dans l'histoire. Il est vivant aujourd'hui, il est le souverain sur toute chose. Un jour, son autorité sera reconnue par tous et toutes, bon gré ou mal gré. Et nous voulons déclarer ce soir encore cette autorité et aligner nos vies sur le monde à venir dans lequel tu auras, Seigneur, toute autorité. Cette autorité sera reconnue partout et par tous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Veuille travailler dans le cœur de chacun pour nous aider à mieux comprendre qui tu es, mieux comprendre ce que tu as fait pour nous et grandir dans notre relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen.